Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture. 500 ans. Voilà 5 siècles que le moine Martin Luther a publié les 95 thèses qui sont à l'origine du protestantisme. C'est en effet en 1517 que Luther allait, en voulant réformer son église, changer le monde. Et cette année, c'est le dernier jour de protestants en fait, un événement organisé par la Fédération protestante de France qui rassemble des milliers de ces protestants à Strasbourg depuis vendredi et dont le culte célébré au Zénith sera retransmis en direct tout à l'heure en Eurovision à partir de 11h sur France 2. 3 invités sont avec nous pour nous aider à comprendre, pour vous aider à comprendre ce qu'est ce dimanche de la Réformation et ce qui s'est passé à l'époque de Luther, comment la société a évolué à la suite de Luther et qui sont aujourd'hui les héritiers de cet héritage qu'il nous a laissé. Alors, avec nous, nous avons Marc Linhart, qui est professeur émérite d'histoire du christianisme à l'université de Strasbourg, le professeur Thomas Meissen, directeur de l'Institut historique allemand à Paris, et le pasteur François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France. Alors pour commencer, je voudrais m'adresser à Marc Linhart, s'il vous plaît, avec un tour 500 ans en arrière. Pour comprendre Luther, il faut qu'on comprenne la société dans laquelle il a évolué. C'est une société médiévale qui est dominée par la crainte de l'enfer et aussi cette obsession du salut. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette société et pourquoi Luther a pu sortir de là avec des idées nouvelles?
Alors Luther, il faut le rappeler, était un moine, oui, qui a connu l'Église de l'intérieur. Il était en même temps professeur qui a interprété l'Écriture sainte devant ses étudiants. Alors il faut rappeler qu'il vivait aux confins de l'Empire romain germanique à Wittenberg. Avant, il avait été à Erfurt. Dans cette société, il y avait un besoin de réforme de tout au long du XVe siècle, de réforme de l'Église, de réforme des institutions, de réforme aussi de la piété. Il y avait toutes sortes aussi de courants rénovateurs tels que la Devotio Moderna et d'autres encore. Et puis, il y avait aussi des questions ouvertes, y compris pour la théologie. Pour la théologie, notamment, la question se posait, dans quelle mesure l'homme peut-il se préparer à l'obtention de son salut, à l'obtention de la grâce. D'autre part, il y avait toutes sortes de problèmes litigieux dans les pratiques ecclésiales, en particulier la question des indulgences. La question des indulgences, Luther donc élabore ses 95 thèses en 1517, on ne sait pas très bien s'il les a affichées ou pas. Et pour Luther, 2 questions se posent à propos des indulgences, qui étaient des remises de peine accordées à ceux qui avaient fait pénitence et reçu l'absolution, et ces peines étaient imposées pour la sanctification du pénitent. Moyennant finance, les fidèles pouvaient acquérir ces remises. Voilà. Luther, 2 questions se posent. D'une part, jusqu'où va le pouvoir de l'Église? L'Église, et en particulier de la papauté, peut-elle remettre des peines même de l'au-delà? Et avec quelle autorité? Et d'autre part, pour Luther, c'était une question de savoir si le chrétien pouvait ainsi, devait ainsi renoncer aux peines et à suivre le Christ, y compris en portant sa croix. Donc pour lui, c'était une remise indue de peine, alors que le christianisme, tout en vivant de la grâce, s'exprime aussi à travers une vie sanctifiée et en acceptant les peines. Luther lui-même n'avait pas de programme de réforme de l'Église. Il a posé des questions et peu à peu, la papauté n'acceptant pas ces mises en question, va s'enclencher un processus qui conduit à la division de l'Église avec l'excommunication de Luther début 1521 et puis à son corps défendant Luther et les siens. Ceux qui ont entendu et reçu son message constituent ou s'engagent pour une nouvelle forme d'Église, un nouveau vécu religieux, une nouvelle théologie aussi, essentiellement enracinée dans la Bible, mais tributaire aussi des pères de l'Église comme saint Augustin ou encore de la mystique rhénane.
Voilà, alors ce qu'il faut retenir, c'est que Luther n'était pas un dissident volontaire, finalement.
Non.
Ce qu'il voulait, lui, c'était revenir aux Écritures, plutôt que le contraire, finalement.
Voilà, tout à fait. Il faut rappeler les grandes bases du message de Luther. D'une part, c'est le thème de la justification par la foi.
Voilà.
Ça veut dire que l'homme, pour subsister devant Dieu, eh bien, il peut pas subsister par ses œuvres, mais il subsiste parce que, uni au Christ, il reçoit de Dieu le message du pardon. Donc, au fond, l'homme est mis debout, élargit un petit peu le propos, non pas par ses actes, il est encore un homme quand il chute, quand il commet des fautes, mais il est porté par la grâce de Dieu. C'est cela le message, à mon sens, toujours actuel. Alors, il y a d'autres pointes importantes du message de Luther. L'autorité de l'Écriture sainte, l'autorité dernière, le sacerdoce universel des croyants, et puis alors tout ce qu'il dit du culte et d'autres thèmes.
Le sacerdoce universel, vous pouvez aussi dire ce que ça veut dire pour les auditeurs qui n'ont pas ce vocabulaire forcément.
Oui, tout à fait, excusez-moi, c'est un terme un peu technique. Ça signifie que tous les chrétiens, par la foi et le baptême, sont égaux devant Dieu, et que la division qui existe entre, par exemple, les pasteurs ou d'autres ministres et les fidèles, c'est une distinction de fonction, mais non pas de nature. Et ça signifie aussi que les croyants ont un rôle, une fonction à assumer au sein de l'Église, qu'ils peuvent aussi juger de la doctrine, juger s'ils entendent le message évangélique à travers ce que leur dit le pasteur.
D'accord. Et donc, il y a aussi cette mise à disposition de la Bible pour tous.
Tout à fait.
Qui est aussi un élément
Alors,
très important.
La Bible avait été toujours, à travers les temps, évidemment, le livre de la chrétienté. Il ne faut pas penser que Luther aurait inventé l'autorité ou le rôle de la Bible. Mais pour lui, c'est fondamental, à la fois pour la piété s'enracine dans la Bible. Elle n'est pas simplement un ensemble d'actes, de rites ou de cérémonies, mais c'est une démarche individuel aussi de lecture de la Bible et d'interprétation de la Bible. Donc la prédication sera fondamentalement non pas un discours de morale ou de doctrine, mais un commentaire actualisant de l'Écriture sainte. Mais il faut toujours rappeler que Luther n'a pas voulu supprimer l'institution et l'Église.
Ça, oui.
Il peut dire, par exemple, en 1522, cette parole tout à fait étonnante en perspective protestante, qui veut trouver le Christ doit d'abord trouver l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église est le lieu où la parole de Dieu est annoncé et les sacrements célébrés selon l'Évangile. Donc, il faut un petit peu réagir contre une hypertrophie de l'individu, comme on l'a souvent fait chez les protestants.
Alors, l'Église aussi n'a pas forcément la même signification, puisque c'est pour Luther, il y avait l'Église qui était l'assemblée des croyants.
Tout à fait.
Et puis l'institution l'Église institutionnelle, du coup.
Oui, l'institution est au service de la foi.
Oui.
Et donc l'institution est nécessaire, puisque nous vivons sur terre, il faut des règles, il faut des cérémonies, il faut des autorités, il faut du droit même, il faut tout ce que vous voulez. Mais elle est seconde par rapport à l'événement principal qui est l'annonce de la parole, et donc l'autorité de la Bible. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de convergence aussi avec certaines approches de nos frères catholiques dans ce domaine.
Justement, on va voir comment ces convergences ont pu arriver avec vous, professeur Thomas Meissen. Comment, à partir de ce travail de Luther, de cette révolution qu'il a un petit peu initiée malgré lui, comment la réforme va-t-elle se développer et pourquoi elle va se développer, alors que d'autres, avant Luther, Jean Hus par exemple, avait eu des idées tout à fait similaires, mais lui, il n'a pas du tout réussi à faire passer ses idées, et il a même été brûlé sur le bûcher. Pourquoi Luther a pu, lui, faire développer ses idées à ce moment-là ?
La Bible a été évoquée, l'Écriture sainte, il y a un aspect très important, c'était une Bible traduite, donc traduite en allemand, primo, et secondo, accessible. Donc l'imprimerie et la traduction en allemand sont des préconditions absolument nouvelles, qui n'existaient pas pour Jan Hus. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il y avait un besoin de réforme parmi les Allemands. Pas ça, je suis certain que vous ne vouliez pas dire qu'il n'y avait pas ce besoin de réforme parmi les Italiens ou les Français. Donc la question se pose, pourquoi la réforme a eu un succès, le premier succès dans, au Saint-Empire allemand, et j'inclus la Suisse, parce que Zwingli et la réforme suisse, et puis Calvin, bien sûr, c'est dans la même structure. Or, la grande différence entre la France, l'Espagne, les États italiens d'un côté, l'Angleterre, où il y avait un fort pouvoir monarchique, où il y avait une église qui était bien contrôlée par cette nation naissante, ces États-nations monarchiques. La grande différence du Saint-Empire romain, c'était qu'il y avait un empereur, mais qui n'avait pas ces possibilités politiques qui étaient celles d'un roi, parce qu'il avait devant lui une entité, on pourrait dire aujourd'hui fédéraliste, de environ 400 États impériaux qui étaient plus ou moins indépendants. Il y avait même des petits villages, il y avait des abbayes, il y avait des villes mineures, majeures, Francfort, Augsbourg, donc des villes très considérables. Et il y avait des territoires comme celui de la Saxe, où Luther était protégé. Donc l'empereur ne pouvait pas faire ce que François Ier, en même temps, pouvait dire, mettre les hérétiques sur le bûcher sans se mettre d'accord avec
le prince,
l'électeur, en plus, l'électeur de Saxe. Et donc le succès de la réforme dans les années 1520, ça dépend entièrement de cette structure fédéraliste de l'Empire, parce que le premier succès, c'était dans les villes. La réforme, à part la Saxe, mais la réforme se diffuse dans les villes et à travers les villes. C'est là où il y a des bourgeois qui veulent gérer eux-mêmes leur vie religieuse. C'est là qu'il y a des imprimeries, qu'il y a une culture humaniste d'échange entre des villes comme Bâle, comme Heidelberg, Nuremberg, ainsi de suite, Strasbourg, bien sûr, comme pouvais-je pas mentionner. Donc, pratiquement toutes les villes devient une protestante, ou au moins ceux qui ne deviennent pas, il y en a quelques-uns comme Cologne, ils sont quand même vraiment touchés. Et c'est cette base urbaine, pratiquement, qui explique, dans un empire politiquement assez faible, au moins pour les années 20, quand Charles Quint, qui est l'empereur, n'arrive pas à imposer sa politique, qu'il y a une base très vite pour la réforme.
Alors est-ce que ces villes, ces provinces deviennent protestantes par conviction théologique ou bien par opportunité politique ?
Moi, j'insisterai beaucoup sur le fait, et c'est pour ça que j'ai mentionné aussi Cologne, qu'il y a la possibilité du choix. Et donc, il y a un choix pour beaucoup de raisons religieuses et politiques, machiavéliques même, du côté catholique et du côté protestant. Mais ce qui est peut-être difficile pour nous de vraiment l'imaginer, les convictions religieuses jouent un rôle éminent chez les princes et surtout aussi chez les élites bourgeoises des villes. Là, c'est pas une décision d'un seul, mais c'est les conseils qui décident ensemble est-ce qu'on va choisir la nouvelle religion. Et pour la bourgeoisie, et je pense qu'on pourra dire la même chose pour la France, pour la bourgeoisie urbaine, les commerçants, les artisans, il y a une attraction théologique qui lie leurs facultés, leur connaissance. Ils savent écrire, ils savent compter, ils rendent compte de leur vie quotidienne de commerçant. Donc la différence entre une vie de commerçant et une vie de chrétien, est mineur dans le sens, disons, du protestantisme, où ça dépend, on rencontre directement à Dieu. Donc cette habitude de ne pas dépendre d'un prêtre, mais de rendre compte soi-même, ça c'est quand même propre à ces souches qui accueillent d'abord comme premier la réforme, même si dans l'Empire, il faut souligner, il y a eu une guerre de paysans où oui. beaucoup de paysans ont embrassé la foi protestante.
Alors, ce protestantisme va finalement assez vite s'implanter dans la société à la suite de Luther, mais dans les années, puis dans les siècles qui vont venir, quelle va être la marque que le protestantisme va donner à la société?
Je dirais même les protestantismes, parce que c'est une grande différence si on devient calviniste, zwinglien. Je dirais que ce qui est basé sur ces choix, c'est plutôt la possibilité de tous les princes, de toutes les autorités urbaines et princières, de contrôler l'Église. Et pas seulement les ressources de l'Église, mais d'utiliser les pasteurs comme, je dirais, c'est un peu anachronique, mais comme administration, parce que c'est ce qui manque. Il n'y a pas une administration, disons, de l'État comme nous la connaissons maintenant. Et cette structure, cette Église territoriale, joue un peu le rôle que joue l'Église gallicane en France, ou l'Église en Espagne. Donc le prince, ou en France le roi, il peut dire, mais ce sera lui, le pasteur, ou l'évêque. Donc les positions sont décidées par les autorités politiques, et ça donne une empreinte très fortement politique sur ces églises, et les églises qui deviennent pratiquement un instrument du pouvoir politique. Mais dans l'autre sens, le pouvoir politique doit sa légitimité pour une grande partie à sa capacité de défendre cette Église. Donc il y a un amalgame du religieux et du politique qui explique la naissance de l'État moderne comme État qui est capable d'unifier la population dans une foi et de protéger cette foi contre les concurrents. D'où toutes les guerres que nous connaissons, donc la foi facilite la formation de l'État moderne, et l'État moderne est légitimé à travers sa protection de la foi.
Alors du coup, cette foi, paradoxalement, va être aussi à l'origine de la laïcisation de la société, finalement.
Ça, c'est difficile à dire, parce que je dirais pas que c'est la foi, mais c'est l'expérience de la guerre civile. La laïcisation de la société, qui est une longue procédure, donc on pourrait commencer par l'empereur Henri IV au XIIe siècle, et Canos, mais j'arrête là. Ça, c'est une expérience, tout d'abord, je dirais, française. En Allemagne, il y a un paix en 1555, le paix d'Augsbourg. En Suisse, c'est un peu avant, 1531 à Kappel, où on trouve un modus vivendi garantissant le status quo religieux. Donc chaque canton en Suisse, chaque état territorial en Allemagne peut choisir soi-même, ou le prince peut choisir la foi. En France, c'est pas possible. Et donc l'idée d'un État souverain qui est au-dessus des partis sera la solution française. Donc c'est Jean Baudin qui le pense, et c'est Henri IV qui l'impose. Et ça montre que selon les cas, selon les structures constitutionnelles, le contexte historique, les différents pays choisissent leur propre religion. Là, j'en mets le cas des pays scandinaves, mais ça montre que dorénavant, la société des États européennes qui s'établit est largement un produit de ces différences religieuses, confessionnelles.
Merci beaucoup, Thomas Meissen, d'avoir éclairer nos auditeurs sur toute cette période de la naissance du protestantisme et des protestantismes. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture et maintenant nous allons entendre le pasteur François Claveroli, qui est président de la Fédération protestante de France et qui connaît donc très bien les protestantismes français, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait du protestantisme français contemporain ?
Aujourd'hui, le protestantisme est multicolore, comme je l'ai dit il y a quelques années. Il a plusieurs visages et en tout cas, il a au moins trois grandes lignes de force et de développement. Comme on l'a dit tout à l'heure, le protestantisme historique classique, luthéro, réformé et peut-être baptiste aussi, puisque le baptisme a une origine très ancienne et qui remonte à la réforme. Le protestantisme évangélique issu de mouvements de conversion et de missions en particulier anglo-saxonnes dans les années d'après-guerre. Et puis, plus récemment, un protestantisme pluriculturel issu de la migration ou de l'immigration, avec évidemment là un protestantisme subsaharien, donc d'Afrique noire en particulier, Congo, Cameroun, etc. Et puis asiatique, la Chine notamment, et puis d'autres pays d'Asie, la Corée, et puis des îles, hein, donc des Antilles, un protestantisme qui se développe là en France à grande échelle. Et donc voilà, ces trois grandes familles font que le protestantisme est pluriel. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous fêtons 500 ans de réforme avec un S,
c'est
hein,
ça.
Pour dire au fond que cette pluralité d'aujourd'hui a une justification dans l'origine même de la réforme luthérienne qui contient en germe, comme on l'a dit à l'instant, toute une série de questions, pas seulement spirituelles, mais aussi sociales, politiques, économiques et culturelles. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que le protestantisme, c'est un mouvement à caractère civilisationnel et pas seulement un mouvement spirituel à caractère, j'allais dire, vous voyez, personnel, individuel, moi et ma petite foi personnelle.
C'est ça.
En réalité, le protestantisme est à l'œuvre dans le monde, alors en Occident, au sens large du terme, en Europe et en France en particulier, sur des questions qui concernent chaque citoyen.
Alors aujourd'hui, justement, vous qui êtes président de la Fédération protestante de France, est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau la fédération, le protestantisme ou les protestantismes s'engagent pour une société qui leur convient mieux ou...
On va commencer par le début. Par la lecture de la Bible et l'apprentissage d'une lecture partagée, il y a une meilleure compréhension du monde. Calvin disait « la Bible sont des lunettes pour lire le monde ». Oui, il inverse il inverse le schéma. Hein. C'est, la Bible va nous aider non pas à nous retrouver seulement nous-mêmes, mais à découvrir à travers les histoires racontées dans la Bible, les grands enjeux de l'humanité. Donc la Bible contient ces problématiques, la fraternité, l'accueil de l'autre, l'amour de l'ennemi, fabriquer la paix et la justice là où c'est possible. Ça, c'est le premier point, par la lecture de la Bible. Le deuxième point, c'est évidemment les engagements que toutes les églises prennent. Alors on a un exemple dramatique qui a marqué ces dernières années avec l'accueil des réfugiés en Allemagne d'abord, avec un signal fort qui a été donné à toute l'Europe. La Fédération protestante s'est engagée sur ces affaires-là et les églises, les associations, les œuvres, les institutions ont pris leur part. Mais il faudrait aussi parler des changements climatiques où on est questionné par l'évolution de notre monde, la surexploitation de la planète et les alertes des scientifiques et des spécialistes sur ces questions qui mettent en cause la génération d'après. Et donc la question éthique n'est plus seulement une question pour aujourd'hui, mais c'est une question qui devient générationnelle, c'est-à-dire la responsabilité redoublée à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants. Et puis enfin, on pourrait dire la responsabilité démocratique, l'engagement des croyants, des chrétiens dans le débat public. Une parole parmi d'autres, hein, une parole qui s'articule à d'autres discours publics où le protestantisme accepte d'apporter ses éléments d'interprétation sur les enjeux sécurité, justice, liberté publique, etc.
Donc un engagement très concret du protestantisme dans la société aujourd'hui. Quelle est votre vision du protestantisme de demain? On arrive à la fin de cette émission. Si on peut avoir un aperçu de ce, peut-être de ce que vous espérez, de ce que vous voyez, ou de ce qui se dessine actuellement, puisque la société est en évolution permanente et on voit bien des tendances. Quelle est la tendance que vous observez pour l'avenir proche ou un peu plus lointain?
Je dirais deux choses. La première, assez positive, dire au fond, par le fait même de la démographie, il n'y a jamais eu autant de protestants dans le monde qu'aujourd'hui.
D'accord.
Et y compris en France, d'ailleurs. En France, on n'a jamais eu autant de protestants qu'aujourd'hui, grâce à l'effet de la démographie et aussi par l'effet de la migration qui renouvelle, par le fait des églises qui étaient issues des missions au 19e siècle, un protestantisme de souche français, enfin nouvellement français, etc. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le protestantisme de demain va sans doute avoir devant lui des défis éthiques majeurs. Hein, c'est le transhumanisme, c'est les questions qui se posent concernant les extrémités de la vie, enfin à la naissance et avant la naissance, ou bien la mort et comment on gère les fins de vie. Donc des questions extrêmement lourdes
qui concernent finalement
tout le monde, mais où le protestantisme devra, par sa lecture de la Bible, par son interprétation, trouver quelle est la parole positive, en français courant, enfin pour dire le mot évangile, quel est le regard positif que l'on peut porter sur ces évolutions pour dire le salut, c'est-à-dire ce regard bienveillant de Dieu sur ce qui nous arrive malgré les difficultés. Et donc là, il y a peut-être des clivages qui vont s'opérer dans le protestantisme entre une vision ouverte, positive, une vision conservatrice qui permettra d'ailleurs le débat interne, puisque le protestantisme, depuis son origine, est une espèce de moteur à deux temps, si je peux m'exprimer ainsi, avec un débat permanent entre une ouverture possible, hein, une grande espérance vers le monde que Dieu a tant aimé et qu'il faut accompagner, et puis des freins, des alertes, des inquiétudes aussi qui traversent le protestantisme. Donc voilà, je dirais que au fond le protestantisme de demain sera porté par ces enjeux extrêmement clivants, mais du coup il devra se rappeler qu'il est catholique, ce protestantisme, c'est-à-dire qu'il a prétention à vivre pleinement l'Évangile dans sa diversité et ensemble.
Dans son côté universel. Voilà. À tous les trois, je vous remercie beaucoup d'être venus participer à cette émission. Peut-être une question que je pose à tous les trois, en un mot, puisque le thème de ce grand rassemblement protestant, en fait, qui a lieu en ce moment même, c'est la fraternité. Est-ce que vous pouvez, en un mot, ou deux, ou trois, pas beaucoup plus, me dire ce que, pour vous, veut dire fraternité, Thomas Messène?
Humilité, peut-être. C'était un mot que vous vouliez, donc je dirais l'humilité de savoir qu'on est aussi faible que celui qui est proche, et même ceux qui sont moins proche.
Marc Lienhardt.
Oui, je le dirais avec le traité de la liberté chrétienne et Luther. Le chrétien est l'homme le plus libre qui soit. Liberté chrétienne, grand thème, et d'autre part, solidarité.
François Claveroli.
Moi, je dirais que la fraternité, c'est la reconnaissance qu'on n'est jamais complètement soi-même, ni dans la vérité, sans l'autre.
Merci beaucoup à tous les trois. Cette émission est maintenant terminée. Sachez que vous pouvez la retrouver sur le site franceculture.fr ou protestant.org pour la télécharger, la réécouter quand vous voulez. Et merci aussi à l'équipe technique, Frédéric Kérou, François Rivalan et Benoît Bachelier qui sont venus ici pour enregistrer cette émission. Je vous retrouve dimanche prochain avec un service protestant à partir de 8h30. Mais restez à l'écoute de France Culture. À suivre dans quelques instants le journal, puis retrouver Marc-Alain Wacknin pour Talmudic pour dimanche.